Merci à Thierry Parian, merci à Philippe Rachet d'avoir tenu ces propos introductifs pour une rencontre que j'ai la délicate mission de garder le temps, on dit, c'est ça, gardien du temps. Alors, et de présenter les différents intervenants qu'on va remercier, ils sont nombreux. Intervenants, animateurs de table ronde, une quinzaine de personnes ont bien voulu donner leur soutien à cette rencontre, donner aussi leurs réflexions, et ça nous sera très précieux. Mais évidemment, c'est une rencontre et il est très important que celles et ceux qui, dans la salle, ont des réflexions, ont des observations, ont des remarques, ont des véhémences, pourquoi pas, puissent répliquer, riposter, répondre, interpeller les intervenants. Donc, pour chacune des tables rondes, la règle sera assez simple, grosso modo une heure et demie globalement, avec une première heure où on va laisser chacun des intervenants sous la tutelle de l'animateur donner son point de vue, et ensuite nous prendrons une demi-heure pour échanger sur le sujet. Comme j'aurai sans doute l'occasion de le répéter, comme l'ensemble de la journée est enregistré, c'est toujours très important de garder trace de rencontres comme cela. Je vous remercie par avance de bien vouloir donner votre nom et, le cas échéant, l'organisme que vous représentez quand vous prenez la parole. Pour l'heure, on a une première table ronde qui s'appelle « Un public des personnes ». C'est comme ça qu'elle a été appelée. On a le plaisir donc d'accueillir à cette tribune, d'une part, Carole Fives, je suis très heureux d'accueillir auteur à la fois de livres pour enfants, mais aussi pour adultes, et peut-être pour les deux, elle nous en dira plus, qui est également une animatrice d'ateliers d'écriture, qui travaille auprès de groupes très variés, elle aura aussi l'occasion de nous le dire. À ses côtés, Pierre-Anne Gosset, futur ex-chef des productions culturelles, des publics et de la programmation culturelle. Je me suis fait des fiches, je vais les sortir quand même. Les antisèches, ça sert. Hein. Voilà. Hein. Et donc, pourquoi je dis futur ex-chef ? Parce que cette mission pour elle s'achève demain et que dès lundi, elle traverse la Saône pour devenir l'adjointe au chef du service patrimoine de la ville de Lyon. Pierre-Anne a beaucoup œuvré également dans l'Ain. Elle a été directrice du musée de l'histoire de la résistance et de la déportation de Nantua, et elle est à l'origine évidemment de beaucoup d'expositions et de publications liées à ces expositions. À ses côtés, Cécilia de Varine. Alors, Cécilia de Varine, plasticienne, médiatrice culturelle, cofondatrice du reste de l'association Médiation Culturelle Association, elle s'appelle comme ça maintenant, MCA, qu'elle a présidé de longues années. Elle a travaillé au MAC, au Musée d'Art Contemporain, au Musée des Beaux-Arts de Lyon, et puis elle est maintenant la référente, la chargée de développement culturel, c'est comme ça que ça s'appelle, à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, à Lyon. Elle aussi, on lui doit, au-delà de son action dans ces établissements, on lui doit pas mal de textes. Je vois qu'elle a devant elle le livre « Culture et musée », la revue, qui est une revue bien connue des médiateurs. Et puis, Christian Ruby, philosophe, à qui l'on doit notamment, parce qu'il a beaucoup écrit, et notamment sur les questions de médiation, d'innovation, qui croisent la culture et le social, et on lui doit notamment une étude sur, alors avec Arnaud Théval et Catherine Brou, sur la condition post-hospitalière, je crois qu'elle s'appelait comme ça, Et donc, toute cette table ronde va être animée par Laurent Bonzon, l'extrême gauche.
C'est ça. Ça pour nous, c'est l'extrême droite.
Il est habillé tout de noir vêtu, là, bon. Voilà. Laurent Bonzon, d'ailleurs, s'il est habillé de noir, je crois savoir, c'est qu'il est, il est l'auteur de quelques romans noirs, mais il est surtout là en tant que directeur de l'ARAL. L'agence régionale, alors je ne sais pas, on dit l'ARAL maintenant,
encore,
l'agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation. Et c'est donc lui qui va interroger cette problématique de un public des personnes en interrogeant ses quatre partenaires. Et je lui laisse la parole.
Tu nous laisses le deuxième micro,
Je laisse le deuxième micro, tout à fait.
Ah, il faut... Bien, bonjour.
Bonjour. Ah,
il faut l'allumer.
Il faut peut-être l'allumer.
Bonjour. Alors, je m'excuse pour cette horrible voix de canard amoindri, mais j'ai une grippe là depuis hier. Voilà, donc je vais essentiellement laisser parler les intervenants, ce qui est bien, puisque c'est mon rôle. Voilà, merci Michel pour cette présentation. Merci à Interstice pour cette invitation. L'Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation est donc partenaire de cette journée. Et voilà, nous sommes donc dans la première table ronde d'aujourd'hui et la première chose que je me suis dit, peut-être sans doute pas vous, mais d'où je viens, hein, c'est-à-dire d'une structure culturelle comme celle que je dirige, l'Agence Rhône-Alpes pour le livre, cette journée sur la rencontre dans la création artistique m'a paru un peu marcher sur la tête. Mais voilà, c'est justement ce qui m'a intéressé. Séverine est là, d'ailleurs, j'en profite pour lui dire, sinon j'aurais refusé, mais c'est exactement ce qui m'a intéressé. C'est cette façon qu'on va avoir aujourd'hui de partir du public, des spectateurs, des personnes. On va voir avec nos intervenants comment il convient de les considérer. Et dans le secteur qui est le mien, on dit aussi des lecteurs, vous le savez, des clients, et même parfois... avec beaucoup de mauvais goût, on dit les consommateurs. Donc ça fait partie, évidemment, de cette question. Donc on part aujourd'hui, ce matin, de ceux qui sont du côté de la réception des œuvres pour arriver à travers les lieux et les espaces à la création. Alors cette idée, c'est Thierry Pariente et le président d'Interstice l'ont tout à fait bien introduite. C'est une sorte de petite révolution copernicienne, sans doute qu'elle a eu lieu depuis longtemps dans certains domaines culturels, dans vos domaines culturels, dans le domaine du livre et de la lecture. Je dirais que c'est plutôt quelque chose de récent et que c'est absolument d'actualité, notamment dans les bibliothèques, où la question des publics, qu'on appelle les usagers, hein, encore un autre mot, entraîne une profonde redéfinition des espaces, des rythmes, peut-être même des horaires d'ouverture un jour, mais de l'ensemble de l'offre documentaire et culturelle d'un établissement de lecture publique. Donc un public, un lieu, une création, tout cela donne une forme de rencontre multiforme, polysémique, où se croisent, bien évidemment, et je pense qu'on va en parler, des enjeux politiques, sociaux, culturels, esthétiques, personnels, voire existentiels. Ces enjeux, donc, traversent la notion de public. On a longtemps dit le public, en globalisant des pratiques et des comportements culturels a priori dissemblables, puis on a parlé des publics, pardon, en s'efforçant d'identifier, de différencier des récepteurs spécifiques, catégorisés pour éventuellement adapter les formes de la réception, sinon celle de la création. Ça, c'est une des questions que je poserai à l'écrivain qui est à côté de moi. Tout cela pour des raisons politiques, administratives, voire commerciales. Hein, les formes modernes du marketing culturel, notamment numérique, elles aussi nous conduisent à une segmentation des publics, c'est-à-dire une sorte de prédétermination crypto-commercial de l'expérience esthétique. Quelle influence cette présence des publics pourrait également avoir sur l'acte de création même? On va pouvoir donc le demander à Carole Figo, qui est arrivée à temps, et je l'en remercie. Aujourd'hui, on va le voir, c'est ce que dit le titre de cette table ronde, un public des personnes, donc on continue de s'interroger sur la notion même de public jusqu'à la remettre en cause. Lui préférait éventuellement d'autres concepts. En tout cas, il y a une volonté de continuer à réfléchir sur les modalités de la réception et du coup, évidemment, de la médiation, d'échapper peut-être à ce qui pourrait être un peu limité, normatif, éventuellement même stigmatisant dans la notion de public, au singulier comme au pluriel. On va donc commencer par un petit tour de table. Alors c'est une table ronde qui n'est pas ronde, mais on va quand même en faire le tour, pour explorer cette notion de public, voir ce qu'elle renferme, ce qu'elle dit aussi de la proposition culturelle et artistique, comment elle est perçue par les différents acteurs qui sont avec nous ce matin. Donc qu'est-ce qui se cache derrière tous ces publics, derrière le nom de les publics abonnés, usagers, scolaires, empêchés, éloignés, nouveaux publics, non publics. On peut se demander d'ailleurs s'il y a autant de sortes d'expériences esthétiques et sensibles que de publics. C'est une question importante. Et où est-ce qu'on vit finalement tous une même expérience dans des modalités socioculturelles différentes? Voilà, beaucoup de questions. Je vais vous laisser à chacun quelques minutes pour non pas vous présenter vous-même, puisque Michel l'a fait, mais pour parler un peu de de votre relation avec le public, et puis après on en sera à la discussion. Donc je vais commencer par Carole, par l'auteur, voilà, qui écrit effectivement pour alors elle va nous dire pour tous les publics, et qui est également aussi, qui a une activité de plasticienne et qui mène aussi des travaux d'ateliers d'écriture, du coup, pour le coup, avec le public du côté de la médiation, et qui prend une part assez importante aussi dans son œuvre.
Merci. Bonjour à tous. Merci d'être là. Très bon. Donc, je suis Carole Five. Je suis depuis 2 ans à Lyon. Effectivement, j'anime là, depuis la rentrée, des ateliers d'écriture aux Hospices Civils de Lyon. Donc, voilà. Et l'année dernière, j'ai animé des ateliers à la fac à Lyon 3. Et je suis dans différentes structures hospitalières de la région. Voilà, et à Lille, dans les villes dans lesquelles j'étais auparavant, depuis une dizaine d'années, effectivement, parallèlement à mes activités d'auteur, en jeunesse à l'école des loisirs, je commence avec des petits albums chez Arbacane, voilà, avec des albums pour les 2-3 ans, jusqu'à la littérature générale, qui est mon premier mode d'expression, puisque j'ai commencé à publier des romans pour adultes, des romans en littérature générale. Et de la même façon, comme mes livres s'adressent à tout public, ça va vraiment de l'album pour les 2-3 ans jusqu'à la littérature générale en passant aux livres pour ados, la collection aussi médium de l'école des loisirs, j'ai vraiment fait toutes les collections en jeunesse. Et du coup, de la même façon, je suis amenée à rencontrer des publics de tous âges, donc de la maternelle. Et en ce moment, aux Hospices Civils, justement, je travaille en gériatrie. Donc c'est vraiment le deux extrêmes, puisqu'hier, j'étais avec un monsieur de 95 ans. Et voilà. Donc, pour moi, le public, effectivement, il se décompose en différents publics. Mais de la même façon que quand j'écris, on reviendra là-dessus un petit peu, là, je vais passer rapidement là-dessus. Quand j'écris, je ne pense pas aux gens à qui j'écris. J'écris alternativement, j'ai une voix, j'ai 3 ans, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 50 ans, j'ai 95 ans. J'écris, c'est une voix qui s'élève en toute hauteur, je pense. Et qui du coup va prendre les pauses de chaque âge, de chaque personne dans sa particularité. Et de la même façon, quand je suis en face de public, c'est vrai qu'on appelle ça des publics maintenant, je ne pensais pas exactement le jargon de la médiation culturelle, moi je viens plutôt de l'éducation nationale, on a un autre vocabulaire, mais c'est finalement, ça peut rejoindre aussi les publics violents, enfin, d'autres choses, mais finalement c'est un peu. C'est une façon de stigmatiser les gens. Et en tout cas, pour moi, effectivement, quand je m'adresse à des gens en structure hospitalière ou en école ou en musée ou en médiathèque, je les faire écrire et que je mets en condition idéale pour pouvoir écrire, pour moi, c'est des écrivains. Voilà. Donc, c'est Et d'ailleurs, en ce moment, ce qu'on fait aux hospices civils, c'est qu'on met, je crois qu'il y a quelqu'un aux hospices civils qui est là aujourd'hui, Frédéric Riondet, je ne sais pas si il est là. Ouais, il est au fond, d'accord. On essaye de mixer dans ce projet les publics, soignants, soignés, justement, afin de ne pas tomber dans un. De se dire, je vais faire des ateliers d'écriture dans un milieu gériatrique, avec, je vais vraiment m'adresser à ces personnes-là. Non. On a vraiment, je m'adresse de la même façon, je donne des propositions qui sont les mêmes pratiquement, sauf là on travaille effectivement sur la mémoire et sur l'écriture du quotidien, parce que c'est la thématique, on peut s'adapter aux personnes, mais je vais pas leur faire des propositions différentes qu'en médiathèque, qu'au musée, qu'en collège, simplement on va adapter les modalités d'écriture et les conditions d'écriture aux personnes qui sont présentes. Mais je ne vais pas m'adresser à eux d'une façon différente. Si, voilà, selon, après, il y a effectivement des. Ouais, bon, je vais m'arrêter là pour la présentation.
Alors, Cécilia de. Si vous pouvez vous aussi nous donner un peu votre approche de ces. Votre relation avec le public, cette notion, et qu'est-ce que ça, vous qui êtes à la fois aussi plasticienne, médiatrice, en tout cas dans la médiation culturelle, et sur des publics, autour de publics dits spécifiques, je les définirais mieux que moi, mais comment vous situez-vous un peu par
rapport à ça ? Bonjour à tous. Alors le côté plasticienne, je vais le mettre complètement de côté parce que c'est une identité. J'aime bien rappeler parce que je pense qu'on vient de quelque part et qu'on est formé et qu'on a une approche qui est colorée par nos formations, par nos expériences, etc. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis plasticienne parce que ce n'est vraiment pas ce que je fais le plus. Je fais beaucoup d'autres choses, mais pas ça. La question des publics, alors si j'étais invitée aujourd'hui ici à cette table, c'est qu'en fait, j'ai écrit un article dans une revue qui s'appelle Culture et Musée, qui est une revue de recherche scientifique sur la question des publics, beaucoup, des publics de la culture, on va dire. Et du coup, c'est vraiment un article que... qui me tenait à cœur parce que c'était vraiment donc le thème de ce numéro était culture et public empêché, donc clairement dans le titre il y avait cette terminologie qui était utilisée et il m'a intéressé de creuser justement la relation ou l'approche que je pouvais avoir de cette notion de public et de public empêché maintenant que je travaille donc dans un hôpital psychiatrique. J'ai travaillé donc, comme l'a dit Michel, très longtemps dans des musées, dans des institutions de services publics où la question des publics se repose sans cesse, alors que ça fait partie intrinsèquement, en principe, de ses missions fondamentales. Et tout d'un coup, à un moment donné, j'ai basculé, on pourrait dire, de l'autre côté de la vie sociale ou de la vie culturelle, puisque donc aujourd'hui, je m'occupe de l'action culturelle dans un hôpital. Et un hôpital où une partie des gens sont soignés en ambulatoire, donc vivent chez eux, ont une vie... sociale tout à fait vivante, on va dire, et puis une autre partie sont des gens qui sont aujourd'hui hospitalisés et qui donc effectivement sont empêchés, pour une part empêchés par plusieurs facteurs, d'abord par des angoisses ou des difficultés vraiment psychiques, et puis empêchés parce que pour certains ils sont dans leur chambre très voilà, ou au moins limité à une fréquentation du parc de l'établissement. Donc voilà, donc du coup, la notion d'empêchement, oui, je la perçois bien. Mais ce qui m'intéressait d'interroger aussi dans cet article, c'est vraiment la notion de non-public, qui est un terme, une terminologie qu'on a de plus en plus entendue ces dernières années. Et puis, c'est vrai que mes propres réactions de médiatrice culturelle, parce que je pense vraiment que je fais toujours ce métier-là, même si... c'est un peu comme, je sais pas quoi, comme les menuisiers. Je pense qu'on fait pas tout à fait le même. On fait le même métier quand on est menuisier dans un atelier, puis quand on est menuisier dans, je sais pas quoi, dans un musée justement. Mais malgré tout, le travail est forcément s'adapte et se construit totalement différemment. Ben, je pense que je suis toujours médiatrice culturelle, mais quelque part ailleurs, et que cet ailleurs me force à réinterroger complètement ma pratique. Et depuis que je travaille dans cet hôpital, c'est-à-dire depuis 5 ans. En fait, quand mes partenaires, nos partenaires culturels viennent pour une réunion, pour une rencontre, et qu'ils me parlent de nous en tant que public, À chaque fois, ça me choque. Et à chaque fois, ça ne me va pas. Et à chaque fois, je n'ai pas l'impression qu'on ait un public. Voilà. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Et donc, j'ai essayé de creuser à travers l'écriture de cet article pourquoi ça ne me convenait pas, et notamment cette idée aussi de non-public qui me paraît une sorte de comble d'absurdité, c'est-à-dire que qui peut se... Alors effectivement, moi je suis un non-public beaucoup pour la danse, par exemple, la Biennale de la danse, ça ne m'intéresse pas la danse, je vais dire,
d'accord.
J'adore bien ça, parce que vraiment ça ne m'intéresse pas du tout, mais j'ai jamais eu de médiateur culturel, qu'est-ce que tu veux dire, il y a eu un manque là, de ce côté-là. Mais voilà, la danse ne m'intéresse pas, donc je suis un non-public de la danse, effectivement, c'est-à-dire que, mais je ne peux pas en tant que citoyenne me considérer comme non-public, je fais plein d'autres choses, et ce n'est pas parce que je ne vais pas avoir de la danse que je ne fais pas autre chose pendant ce temps-là, et que je me retiens de respirer en attendant que la Biennale se termine. Donc, je ne me retiens pas du tout, je respire encore mieux peut-être, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans les salles en train de regarder de la danse. Et voilà, donc du coup, cette notion de non-public me paraissait particulièrement absurde, et je ne pense pas qu'il y a des non-publics, il y a effectivement des gens, et en même temps, dans cette notion d'un public des personnes, c'est intéressant parce que là, je vous regarde, vous êtes tous très différents, je sais que dans la salle... Il y a des artistes, il y a des gens qui, comme moi, sont coordinateurs de l'action culturelle dans des hôpitaux, il y a des gens qui viennent de structures culturelles, qui sont salariés dans des structures culturelles, il y a sûrement des indépendants divers et variés. Chacun arrive, et pourtant, comme dirait, parce que maintenant que je suis dans un hôpital psychiatrique, il faut quand même que j'utilise les références de mon milieu, et donc, comme dirait Anzieu, qui est un grand psychanalyste, il y a la peau psychique, comme ça, du groupe, hein, le corps groupal. Vous êtes un corps groupal, je vous le dis, je vous l'annonce. Et ce corps groupal, voilà, il faut que j'arrive à le faire. C'est-à-dire que je ne peux pas être absorbée par tous vos visages. Je ne peux pas me dire sombrer dans chacun de vos regards en me disant oh, mon Dieu, celui-là il porte en lui tous les rêves du monde, comme dirait Pessoa. Donc du coup je suis obligée de faire un petit peu abstraction, de vous réduire un peu à un tas étalé comme ça, mais, et ça y est, Biran commence à être traumatisée. Et donc, du coup, on est obligé de trouver quelque chose qui fait liant, qui va. Alors, j'utilise ma voix, comme vous pouvez le remarquer, j'utilise aussi de l'humour, j'utilise quelque chose, mais en tout cas, voilà, de cette multiplicité des corps, des esprits et des expériences, eh ben, on va essayer de faire en sorte que ça devienne effectivement un peu un public, sinon ça serait un grand problème. Et puis, quand même, je pense qu'un des objectifs sur cette terre, c'est quand même qu'on arrive à peu près à cohabiter, ce qui en ce moment est assez difficile visiblement, mais à peu près à cohabiter sans complètement se taper sur la gueule, quoi. Donc si on peut être utile à quelque chose là-dedans, et si on peut par nos actions, par nos travaux, par nos démarches, eh ben, travailler justement cette idée que qu'est-ce que c'est qu'être ensemble et partager une expérience, ben, on a déjà bien avancé.
Merci Cécilia. Pierre-Anne.
Oui. Bon, alors, comme on est tous différents, un autre style que Cécilia. Donc, moi, je suis là au nom des musées Garaigne. Je vais surtout vous parler du musée d'histoire, en fait, de Lyon, plus que du musée des marionnettes, puisqu'à Garaigne, on a ces deux départements. Mais par rapport à ce que j'ai pu réfléchir, expérimenter avec les équipes du musée, la relation au public, je pense que j'avais envie de vous parler de cette spécificité de Garaigne. Donc, notamment du hors les murs d'un musée d'histoire de ville. Donc le musée Garaigne, musée d'histoire de ville, a été fermé pendant longtemps. Il a rouvert en 2009 après une rénovation complète. Et ce qu'on appelle dans notre jargon de musée le projet scientifique et culturel, qui est un peu la colonne vertébrale de chaque musée, mais entre nous soit dit, dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi, en fait, était quand même assez clair par rapport au positionnement du musée par rapport à la ville, puisque donc on est un musée de territoire, un musée territorial, mais aussi un musée de territoire, puisque notre sujet, c'est notre objet, on discutera, c'est la ville de Lyon. Le projet scientifique et culturel disait faire le lien entre le patrimoine in situ, donc dans la ville, et le patrimoine muséographié, c'est-à-dire dans le musée, ce qui est un peu jargonnant, mais qui était résumé par une expression qu'on a toujours gardée auprès de nous et qu'on essaye de mettre en musique, qui est donner les clés de compréhension de la ville, et notamment de la ville contemporaine. Et à un endroit, Simone Blasi, qui était la conservatrice qui a écrit ce PSC, disait que le musée devait être le miroir et le forum de la ville. Alors, fort de tout ça, hop, il fallait mettre en œuvre cette affaire-là, sachant que le musée a fermé en 2003 et qu'il a rouvert en 2009, mais ça, on ne savait pas qu'on serait 6 ans fermé. Et donc, on a mis en œuvre un certain nombre de choses en hors les murs. Donc, c'est ce qu'on appelle notre période HLM, ou hors les murs, donc pendant la fermeture. Et on s'est très vite aperçu en fait qu'en montant des projets en fait avec la ville, la question des publics, alors on a un peu réinventé le fil à couper le beurre par rapport aux écomusées et aux devarines diverses et variées. Et donc c'est private joke pour les musées, ça. Mais en fait, on s'est aperçu que la ville, pour le musée de ville, donc les gens qui composent la ville, qui la composent, qui sont des usagers de la ville, qui la font vivre, l'aiment, la détestent, essayent de la faire bouger, la font bouger ou pas. C'était à la fois nos publics, mais c'était aussi notre sujet, on devait parler d'eux. Et finalement, quelque part, c'était aussi des experts de la ville et des acteurs donc de la ville. Et petit à petit, on s'est mis à construire avec eux... on s'est mis à construire avec eux la découverte de la ville. C'est-à-dire qu'on leur a fait découvrir des choses, ils nous ont fait découvrir d'autres. Et donc, cette période de hors les murs a vraiment été quelque chose d'extraordinaire. À un moment donné, on travaillait avec 29 associations en même temps. Alors, pas toutes en même temps, mais on avait des projets avec 29 associations sur le territoire lyonnais. Et donc, de cette période bénie demeurent beaucoup d'expertise et de liens, mais deux dispositifs que sont les balades urbaines et le dispositif pour les scolaires, patrimoine et moi. Balades urbaines, c'est donc les troisièmes week-ends de chaque mois. On a une balade par arrondissement qui est une balade qui est menée non pas par un médiateur culturel professionnel, mais quelqu'un à qui on apporte des clés sur la médiation culturelle, mais qui sera un urbaniste, un photographe, un géographe, ou voire même un médiateur culturel, on n'est pas complètement raciste. Mais l'idée, c'est que la balade urbaine, elle est construite en lien avec le territoire. C'est une autre manière de découvrir un quartier, un territoire. Donc il y a soit des gens qui sont associés en amont pour la conception de la balade, soit des témoins qui interviennent. Et donc les balades sont à la fois dans la conception déjà un forum, et au moment même de la balade, vous imaginez bien que les gens qui viennent participer à la balade ont beaucoup de choses à dire. Et ça permet au musée de faire différemment, mais aussi de capitaliser des liens avec les territoires qui sont très précieux. Donc tout ça est merveilleux. Moi, je voulais quand même en parler des limites, parce qu'on se congratule souvent sur les choses merveilleuses qu'on fait. Juste pour vous dire qu'il y a deux écueils dans ce qu'on a pu faire dans le hors les murs. C'est que d'abord, on a rouvert le musée. Et ça, ça a été dramatique, voilà. Par rapport à tout ce travail. Bon, d'abord, en termes de moyens et de ressources humaines, on a été complètement pris dans la réouverture. Et donc, tous les liens qu'on avait montés avec les associations, on les a mis en suspens à un moment. Et ça, c'est très difficile, quand vous êtes dans les territoires, à un moment, de mettre un coup d'arrêt. Par exemple, pour les balades urbaines, il faut savoir que les bonnes années, c'est 10 000 personnes qui font les balades urbaines. Alors, ça ne peut pas vous paraître énorme, mais pour une institution comme la nôtre qui met les moyens qu'on met sur balades urbaines, c'est quand même pas énorme. Donc c'est très qualiteux, mais on peut quand même s'interroger sur ce qu'on peut faire pour plus de gens. Il ne s'agit pas d'être dans l'obsession du chiffre, mais de se dire comment est-ce qu'on peut toucher plus de gens. Et puis surtout, tout ce lien et cette expertise et cette capitalisation de tout ce qui est sorti des territoires, pour ceux qui connaissent le musée d'histoire, donc j'allais dire n'y allez pas, mais je vais faire démonter par mon directeur, mais allez-y. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. On n'a pas été capable, je le dis en toute sincérité, d'autant que je pars demain, on n'a pas été capable de faire rentrer tout ça dans le musée, c'est-à-dire dans l'exposition temporaire. Il faut savoir que je vais un tout petit peu contredire Michel Knobulaire. En fait, moi, je ne monte pas les expositions, je fais les outils de médiation, l'action culturelle autour, éventuellement les publications, mais en fait, on n'a pas été capable, en dur, de s'adresser aux 70% des gens qui viennent visiter le musée en autonomie, c'est-à-dire qui ne choisissent pas de prendre une visite guidée, un spectacle, un événement, qui viennent comme ça, tout seuls, comme des fous, traverser les salles du musée et qui ne comprennent absolument rien à ce qu'on a pu faire en ras-les-murs. Donc ça, c'est quand même la limite maximale. Heureusement, on a un nouveau directeur qui est arrivé l'année dernière et qui est en train de remettre tout ça. C'est un bulldozer et toutes les équipes qui étaient dans les starting blocks sont très contentes de ça. Donc le directeur est en train de remettre tout ça sur le métier pour se poser la question vraiment de remettre les publics au centre du musée. Donc là, je ne vous parle pas de hors les murs, mais de l'intérieur. Et on est arrivé avec lui à une conclusion qui n'est pas encore tout à fait partagée dans l'équipe, hein, je vous le dis. C'est que les typologies de public et les actions culturelles qu'on peut faire, alors il y a, les vieux, il y a les petits, il y a les analphabètes, il y a les normaux, tout ça. En fait, tout ça, c'est de la technicité. Et quelque part, même s'il faut continuer à travailler à quel est le meilleur moyen de s'adresser à la spécificité de chacun, en fait, c'est du cambouis, ça. C'est de la technique. Et en médiation culturelle, on sait le faire. On sait le faire. Par contre, à qui veut-on vraiment s'adresser? C'est-à-dire qu'une fois qu'on enlève toutes les étiquettes, à qui on veut s'adresser dans le musée? Là, je vous parle du musée d'histoire de la ville de Lyon. Je ne vous parle pas de tous les musées. Je vous parle du mien, du nôtre. À qui on veut s'adresser? Et pourquoi, avant même de se dire, alors là, on va mettre un plan incliné, puis là, il faudra qu'on fasse attention aux lumières, bien, bien. Donc vraiment, à qui est-ce qu'on veut parler? Pourquoi on veut parler à ces gens? Qui sont ces gens? C'est ce qu'on est en train de travailler, en fait, à Gadagne en ce moment, et ça, c'est juste merveilleux. Bon, on échangera là-dessus après, j'imagine.
Merci. Vous êtes rattrapé in extremis sur la ville de Lyon. Alors Christian, si vous voulez peut-être non pas donner un cadre, mais peut-être réfléchir avec nous sur cette notion de public que vous remettez en question et que visiblement tout le monde, que ce soit côté théorique et pratique, questionne et remet en question.
Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Au passage, effectivement, la notion est déjà très largement mise en pièce. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir rajouter pour achever cet édifice. Bon, je vais passer par un autre biais. Alors, bon, d'abord évoquer les raisons contingentes pour repréciser ce qui a été dit tout à l'heure de mon intervention, qui passe effectivement par ce rapport sur la condition post-hospitalière. Bon, ça, c'est une chose, il est sur Internet, vous trouvez tout ça comme vous voulez. Mon travail avec des artistes comme Arnaud Théval, comme Valérie Lechambre, on travaille avec entre deux à Nantes sur aussi ce type de questions. Bon, un travail aussi sur les prisons et les prisons dans lesquelles j'avais monté un atelier de philosophie qui me permettait aussi de faire un certain nombre de choses. Bon, peu importe, ça sont des raisons contingentes, mais des raisons, me semble-t-il, plus nécessaires à quelques mots que je pourrais dire, qui sont les suivantes. Cette fois, je suis renvoyé plutôt à mon travail, à savoir un travail qui a pris donc récemment la forme d'un abécédaire des arts et de la culture, à l'intérieur duquel déjà cette question du public, cette question des médiations, etc. est posée, pas encore développée, mais en tout cas posée, et surtout de mon travail plus large qui vise à construire une histoire culturelle européenne du spectateur, une histoire en l'occurrence qui est un peu complexe à élaborer, qui en est grosso modo à un troisième volume, mais c'est pas des volumes qui suivent, c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas ça donne des choses qui sont, me semble-t-il, extrêmement importantes, notamment pour le débat d'aujourd'hui, avec deux précisions. Un, pourquoi européenne, parce que on parle mieux de sa culture que de la culture des autres. J'ai tellement entendu de gens qui revenaient d'un voyage par-ci par-là depuis 15 jours seulement et qui étaient capables de nous parler de toute la culture des autres. Bon, donc j'ai pas du tout envie de jouer ce jeu-là. D'autre part, pour ce qui est du spectateur, je me suis aperçu en travaillant avec des sinologues, avec des Indiens notamment, que la notion de spectateur, par exemple, n'existe pas dans la langue chinoise, que la notion de spectateur dans la langue indienne n'a strictement aucun sens avant 1930, et c'est pas rien, c'est-à-dire la colonisation britannique, etc. etc. Donc, toute cette histoire culturelle européenne du spectateur remue énormément de choses que je ne vais pas détailler. Et elle est culturelle simplement parce que je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue, etc. Je reste philosophe et c'est au titre de la philosophie que je mène toutes ces questions. Alors, justement résultat de ce travail, pour être le plus bref possible, ce que je voudrais, c'est simplement partager peut-être avec vous des doutes sur l'intérêt de l'usage de la notion de public dans le cadre de nos actions. Je ne vais pas faire la théorie de l'affaire, il y a des articles là-dessus sur Internet, c'est un autre problème. Justement, à l'occasion donc d'un débat sur un public des personnes ou un débat sur la question de la rencontre, il me semble que dans le rapport justement entre hôpital et art, voilà, pour simplifier, de même, excusez-moi, je fais une parenthèse, je vais simplifier spectateur dans spectateur, je peux mettre auditeur, je peux mettre beaucoup de choses, etc., sauf que je ne peux pas faire des phrases avec des emboîtements indéfinis, donc vous accepterez simplement, pour quelques minutes en tout cas, que le spectateur soit ici, un terme générique pour parler, voilà. Bon, après, on détaillera s'il le faut, aujourd'hui il n'y a plus de spectateur, je suis d'accord, etc., mais bon, il faut quand même que je puisse faire des phrases. Donc, dans le rapport entre hôpital et art, ce qui m'intéresse actuellement, c'est justement que, depuis quelques années, l'hôpital, vous n'en êtes pas dupe, découvre qu'on ne s'adresse pas seulement à des malades, mais à des personnes. Eh bien, je pense que, du côté des institutions culturelles, tout d'un coup, on découvre aussi qu'il existe des personnes et que peut-être il faut parler donc, entre guillemets, ce qu'ils appellent le public. En d'autres termes, il faut s'attaquer à d'autres choses. D'une certaine façon, on passe donc dans toutes les institutions, c'est ça qui m'intéresse, il ne faudrait pas croire que tout d'un coup, l'art, la culture va faire quelque chose à l'hôpital, parce que l'hôpital est complètement incapable et indigent de faire. Il y a aussi une histoire culturelle interne à l'hôpital qui fait qu'à l'intérieur de l'hôpital, depuis sa fondation, depuis le 19e siècle, pour aller vite quand il s'agit des hôpitaux modernes, la question de la culture est déjà posée. Donc, il faut éviter de croire qu'on invente le monde simplement parce que nous arriverons, etc. Et bon, c'est un vrai problème. En tout cas, quand on entend un certain nombre de personnes, on a l'impression que tout d'un coup, le monde naît avec elles. C'est éminemment problématique. Donc, on est aussi devant un problème, donc celui du rapport entre le groupe et la personne. Et ça, ça traverse toutes les institutions. Donc, on a bien des raisons de se réunir pour parler de tout ça. Enfin, il y a un troisième élément qui m'intéresse dans ce rapport, c'est le problème du partage du sensible. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais ce qui m'intéresse justement dans ces rapports que l'on peut concevoir entre hôpital et art, encore une fois, mes mots, bon, on peut les étendre, c'est moins les œuvres qu'on présente un peu partout sur le mode de la grande réussite que tous les échecs, les écueils, les problèmes, etc., qui se développent et dont personne ne parle jamais, et dont je pense que justement, dans des instances de ce type où on peut discuter, il faut justement les mettre à jour, en parler, parce qu'on est à l'abri de rien. Alors, moi, j'ai fait des travaux plus spécifiquement sur la censure, sur les œuvres qui ont été commandées, choisies, payées, etc., mais jamais mises en place. Il y a donc quelque part un problème, et ça m'intéresse. Parce que c'est évidemment révélateur d'un certain nombre de choses. Alors, ce qui m'intéresse plus largement, pour en venir à la notion de public, mais encore une fois, très franchement, après les propos de mes deux collègues, il n'y en a plus quasiment, c'est moins le public que autre chose, que ce qui est public dans l'art. C'est pas tout à fait la même chose. Et ça déplace fondamentalement le problème. Ce qui est le public dans l'art, bien avant que ce qui fait public, et bien avant que ce qui est public, c'est pas la même chose, ou que ce qui est le public, si vous voulez, pour préciser. Autrement dit, ce qui est essentiel par rapport à mes démarches, à cette histoire culturelle du spectateur, à tous ces travaux que je mène là autour, c'est de traiter le problème du passage, voilà, du passage et du devenir. Par exemple, enfin en l'occurrence dans la rencontre bien sûr, par exemple le passage du passant au spectateur, ça me paraît absolument fondamental, le passage de l'indifférent au récepteur, encore une fois tout ça ce sont des termes génériques, le passage du spectateur ou de la spectatrice au demeurant, parce que spectateur c'est un mot qu'on emploie quasi toujours au masculin, qui d'ailleurs se forge au masculin et qui dans les définitions du XVIIIe siècle est strictement masculin. Il y a aussi toute une histoire là derrière de l'usage des termes. Bon, donc ce qui m'intéresse aussi, le passage, si vous voulez, de la foule au public, si vous voulez, enfin, tout ça pour résumer l'affaire en un point, il n'existe pas de spectateur, il n'existe pas non plus de public, mais on devient spectateur, et on ne devient spectateur que dans un rapport avec une œuvre, et donc on ne devient spectateur que dans le moment même de cette rencontre. Et après on n'est plus spectateur, et avant on n'était pas spectateur. Et ce qui est intéressant, c'est justement cette affaire, ce rapport, si vous voulez, entre la construction historique que nous sommes obligés d'assumer d'une adresse indéterminée de l'œuvre d'art telle qu'elle se conçoit à partir, disons, bon, de la Renaissance jusqu'à l'art contemporain, ce moment où l'œuvre s'en va d'une certaine façon, parler au hasard à des lecteurs, à des spectateurs, à des auditeurs, d'une certaine façon qu'elle ignore. Bon. Et en même temps qu'il y a cette adresse, le devenir spectateur, et notre devenir spectateur, et notre devenir spectateur à refaire en permanence. Et quand on change d'œuvre, on change sa posture de spectateur. Et quand on change cette posture de spectateur, il s'avère que justement, il n'y a plus un seul type de spectateur, mais il y a des multiplicités infinies de spectatorialité possibles à l'intérieur du champ de l'art, et en même temps, toute une histoire des ruptures introduites justement par les œuvres, parce que l'intérêt des œuvres, c'est justement qu'elles rompent avec les œuvres précédentes. Et qu'à ce titre, notre, disons, position de spectateur est toujours à refaire. Voilà. Et ça m'introduit bien évidemment, pour terminer, à cette question du public, donc je vais simplement en dire un peu plus. Le problème, c'est qu'on pense toujours le public en termes d'impact ou en termes de convocation, en l'occurrence. Bon, on veut le public, on attend le public, on veut aller chercher le public, on est déçu quand le public ne vient pas. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Strictement rien. Ça n'existe pas, le public. Ça n'existe pas. Comment peut-on attendre le public comme si c'était une chose qui se trouvait je ne sais où, qu'il fallait aller la prendre et puis, entre guillemets, l'apporter, parce que c'est bien ça, l'apporter dans les institutions culturelles pour qu'enfin il se passe quelque chose. Bon. Comme si, en fait, le public, c'était une chose ou un état. Bon, et j'insiste sur ma formule, on ne naît pas spectateur, on n'est pas une apostrophe ST spectateur, mais on le devient. Donc il n'y a pas cette chose, il n'y a pas cet état. En fait, on ne peut pas attendre le public parce qu'il est strictement nulle part. En revanche, il y a des problèmes de formation, il y a des problèmes, et, on peut forger des choses, mais on les forge et on les reforge à chaque fois. Il faut toujours recommencer ce travail. Donc ce n'est pas la peine de se bloquer sur des termes qui finalement nous empêchent de raisonner. Et pour terminer, je dirais simplement ceci, l'inconvénient de la notion de public telle qu'elle est utilisée, bon maintenant on peut évidemment changer les choses, c'est que finalement du public il faut toujours l'éclairer, ce qui est une manière d'assurer sa domination sur le public. Voilà. Et politiquement, c'est évidemment fondamental. Voilà. Donc, il n'y a pas à adapter des formats à un public, il n'y a pas, etc. Tout ça, c'est juste du trucage et du trucage qui relève de la communication, mais certainement pas de la spectatorialité, encore moins de l'esthétique.
Eh ben, c'est bien ma chance, pour une fois que je m'intéresse au public. Donc, il n'y en a plus. Il n'y a plus de public, plus de spectateurs. Et Dieu est mort, je vais faire un dossier. Alors, peut-être. Je ne sais plus quoi dire. Ça empêche de raisonner. Christian, vous nous empêchez de raisonner. Non, vous dites ça. Ça empêche de raisonner cette notion, mais du coup, j'ai envie de vous demander ce que ça. À toutes les deux, à Cécile Alvarine et Pierre-Anne Gosset, est-ce que ça vous empêche de travailler ? C'est-à-dire. Finalement, s'il n'y a pas de public, est-ce que vous pouvez quand même travailler et comment vous pouvez travailler sans catégoriser vos publics? Comment vous pratiquez la disparition du public, hein, en quelque sorte? Est-ce que
c'est pas la même chose.
Bien sûr, bien sûr.
Pas se tromper.
C'est pour. Voilà, c'est concrètement, qu'est-ce que...
Il y a Christian qui dit personne, mais... quelque chose. la notion de public, une fois qu'on s'en est écarté, il se passe plein de choses. C'est là où peut-être ça commence à se passer, peut-être. Ce qui m'a intéressé en entendant Christian, et ce que ça m'a rappelé, c'était vraiment cette notion de déplacement, en fait. On n'arrête pas de se déplacer, on n'arrête pas de changer de place, déjà, hein, effectivement. Vous êtes public là maintenant, mais il y en a 10 qui vont venir tout à l'heure et qui ne seront pas publics, et puis nous, on va redevenir public, et on n'arrête pas d'être dans des va-et-vient et de circuler comme ça socialement, et de passer d'une place dans une autre. Donc ça, je pense que c'est non seulement essentiel de l'avoir toujours en tête, mais de l'accorder à l'autre, qu'on aime, qu'on est quand même content de voir arriver le jour où on fait quelque chose. On est vraiment super content qu'il y ait quelqu'un qui soit là et puis qui n'est pas que quelqu'un, qu'il y ait un deuxième quelqu'un, un troisième quelqu'un, et que ça fasse groupe, effectivement, et que ça fasse corps social, parce qu'il y a aussi cette utopie dans l'adresse du public, c'est que nous ayons affaire à un corps social constitué qui accepte de regarder ensemble dans la même direction, comme disait l'autre. Voilà. Après, ce que ça me faisait penser en entendant aussi Christian, c'était, je pensais à ranger, déranger. Je suis frappée à quel point on passe sa vie à ranger. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, ceux qui sont mères de famille, pères de famille, s'en rendent encore plus compte que les autres, on passe sa vie à ranger. Et donc, la moitié de la vie, on la passe à déranger, et puis l'autre moitié à ranger. Moi, je travaille avec des gens dérangés, et la société essaye de les ranger. Donc, on est constamment, en fait, dans une... Voilà, les arranger, et voilà. Et donc, on est constamment dans cette problématique-là, en tout cas, c'est celle qui m'intéresse en ce moment, c'est comment... Et l'art, dans tout ça, il n'arrête pas de déranger quelque chose qu'on a essayé de ranger. Et effectivement, il y a des œuvres qu'on, par exemple, quelquefois, on commande une œuvre et puis on n'ose pas la présenter parce qu'elle dérange trop. Enfin, voilà, on est constamment, effectivement, dans une circulation comme ça. Mais après, cette notion, une fois qu'elle a éclaté, on continue à utiliser le mot. Je vois Alain Boudard au premier rang qui régulièrement vient à l'hôpital. Et alors, c'est aussi intéressant parce que quand Alain vient, on commence en général par un petit atelier. Comment on a appelé ça la dernière fois là, d'échauffement de l'oreille. Voilà, en fait, un atelier d'échauffement de l'oreille qui est ouvert à tous et où tout d'un coup, tout le monde se retrouve dans une même pratique d'échauffement de l'oreille. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont en pyjama, il y en a d'autres qui sont très visiblement patients, d'autres qui sont très visiblement patients aussi alors qu'ils ne le sont pas. Il y a d'autres artistes, il y a des amateurs d'art, il y a des gens qui viennent pour X ou X raisons, qui ont passé la porte et on se retrouve tous assis. Et Alain nous aide effectivement à nous préparer à entendre des choses assez étranges qu'il produit après, et qui s'appelle de la musique contemporaine. Et donc, ça me fait rigoler toujours. Alors, excuse-moi. Bon, quand on est dans ce truc-là, on n'arrête pas de se déplacer aussi. C'est-à-dire qu'au moment où on est dans l'échauffement de l'oreille, on se sent en connivence avec l'artiste. Et puis 5 minutes après, on va reprendre une place. Et c'est vachement dur d'ailleurs. Il y a des gens de l'hôpital, ils ont du mal à changer de place. Ils aimeraient bien continuer à discuter avec Alain pendant qu'il est en train de jouer, etc. Enfin, donc on est dans ces formes-là de déplacement. Et là, évidemment, on est super content qu'il y ait des gens qui viennent. Mais on ne peut pas dire que c'est seulement du public. Voilà, on est dans autre chose, on est dans quelque chose où Alain, de toute manière, il a aussi besoin de nous, il est aussi public de notre existence. C'est-à-dire que s'il vient, par sa présence, il nous rappelle qu'on existe. Parce que quand on est dans un hôpital psychiatrique, quelquefois, on ne sait plus si on existe vraiment. Déjà parce que la pathologie fait que quelquefois on se pose vraiment la question, mais aussi parce que socialement on n'existe plus vraiment. Et alors Alain, il devient notre spectateur, il est notre témoin. Il arrive et on se dit, ah mais s'il vient, c'est qu'on a de l'intérêt, s'il vient, c'est qu'on a de la valeur, s'il vient, c'est qu'on est aussi quelqu'un encore socialement. Donc on est public, moi j'aimais bien cette phrase que disait Joël Lemarais, qu'il faut être témoin les uns des autres, quoi. C'est vraiment ça qu'on demande.
Alors moi, ce que ça m'évoque, c'est plus, je vous parlais de cambouis tout à l'heure, peut-être vous raconter un petit peu notre cambouis pour sortir de cette typologie de public et de se poser la question à qui on veut parler et pourquoi, et puis ensuite on verra comment. Je vais être dans du très concret. On travaille là depuis quelques mois à une exposition donc à Gadane qui aura lieu à l'automne 2017. Qui n'a pas encore de nom, qu'on appelle donc entre nous Pradel, qui en fait, alors vous allez voir, hein, c'est très une vieille histoire, c'est donc Lyon dans les années 60-70, c'est-à-dire sous les années Pradel. Et en fait, on a fait un vrai travail de brainstorming, on a presque sorti les tomahawks pour se mettre sur la figure parce qu'on n'était pas d'accord, pour dire le niveau 1 de la scénographie, en fait, à qui cette exposition s'adresse en premier. Donc, on a ressorti les vieilles catégories, parce que c'est un peu les automatismes. Est-ce que c'est les familles? Est-ce que c'est les étudiants? Et en fait, on s'est aperçu que ça ne convenait pas, il fallait qu'on creuse beaucoup plus. Alors là, je vous annonce en grande pompe que donc, le niveau 1, c'est-à-dire le niveau auquel le public auquel s'adresse la scénographie en priorité, on a défini 3 critères. Alors, on dit que c'est un public jeune, en fait, on s'est aperçu que c'est un public actif, parce que en fait, on s'est aperçu que pour jeunes, on allait jusqu'à quinca. En fait, on voulait dire les gens qui ne sont pas retraités. Voilà. Donc, en fait, on part des étudiants et on va jusqu'au... Donc, on a évacué les jeunes publics. Donc, ce ne sont pas les publics jeunes. Vous suivez le jargon. C'est complètement différent. Public jeune. Et on va jusqu'au quinca, ce qui fait plaisir à notre... directeur, parce que quand on lui a dit qu'on était content, on a dit alors le premier critère c'est le public jeune, il a dit ah bon, alors on a dit ben oui les jeunes c'est les trentas, les cadras, il a dit et les quinquas, alors on a dit ouais aussi les quinquas, en fait c'est ceux qui ne sont pas retraités. Premier critère, mais le critère c'est doublé de, en fait on veut s'adresser, donc on est sur une exposition qui va traiter de l'évolution de la morphologie urbaine, hein. Bon, et ben on veut s'adresser à aux gens qui la vivent, cette morphologie urbaine, c'est-à-dire, alors on a dit ben, les habitants de la métropole. On s'est dit, mais non, parce que tout le monde n'habite pas à la métropole. Alors, on a cherché, alors moi je dis les usagers de la métropole, c'est-à-dire aussi bien ceux qui la traversent, ceux qui habitent, ceux qui viennent y travailler. Donc on est sur les jeunes actifs qui sont usagers de la métropole. Et puis après, on s'est dit, bon, faut absolument qu'on fasse attention à ne pas rester dans l'entre-soi, parce que quand même, dans le monde des musées, c'est quand même ce qu'on fait, hein, depuis toujours, c'est qu'on est entre nous, et on se fait des expositions, et on est super contents, on s'invite, et ah, allez bien, ton exposition, bon. Il faut qu'on sorte de l'entre-soi, donc surtout, il faut qu'on s'adresse à des gens qui sont néophytes en urbanisme et en architecture. C'est-à-dire des gens, même urbanisme, c'est un truc flou pour dire qu'il y a encore des travaux, ou qu'on va détruire tel machin... et donc on arrive quand même à un public et du coup de fait le fait de le définir comme ça nous a permis aussi de voir un petit peu comment on allait travailler avec lui, et donc on s'est dit bah, finalement qu'est-ce qui va intéresser ce public, donc on a défini, donc vous voyez c'est quand même large, hein. En fait c'est comment Pradel, dans les années 60-70 ont un impact sur la ville d'aujourd'hui, sur l'idée qu'on a de la ville qu'on aimerait bien, la ville qu'on n'aime pas, etc. Et du coup, on s'est rapproché d'un collectif artistique qui s'appelle l'ANPU, donc qui est l'Association nationale pour la psychanalyse urbaine. Voilà. Et en fait, c'est des artistes, mais très sérieux et complètement foutraques, qui en fait mettent une ville sur le divan. Pour savoir où sont les traumatismes infantiles, etc. Alors, bien sûr, PH va ressortir, hein, le traumatisme et Pradel. Infantile, et Pradel, Dizzy Béton, tout ça. Je pense qu'on va aller très loin. Voilà, mais en fait, de faire ce travail de définition, alors on s'est écharpé, hein, entre les gens de la com qui disaient oh, ça veut dire qu'on ne va pas s'occuper des familles, comment on va faire, ceux qui disaient ah là là, mais alors attends, ça veut dire que les vieux vont se sentir à part. Enfin bref, on s'est vraiment mis. Et finalement, on s'aperçoit que quand même, quand on réfléchit aux gens auxquels on veut parler, ben, petit à petit, on arrive à la méthode quand même. Alors, j'espère que ça va réussir. Hein. Je vous donne rendez-vous dans un an. Venez voir. Et puis, voilà.
De toute manière, si ça rate, tu dirais que c'est à cause des autres.
Si ça rate, moi, je suis partie. C'est pas
Carole, vous voulez réagir tout à l'heure.
Oui, bien. Ben, c'était pour revenir un petit peu à ce dont parlait Christian Ruby sur la notion de public et de spectateur. Et moi, ma réflexion, quand j'ai entendu parler, elle était aussi sur le fait, du coup, on pense effectivement, comme il le disait, il y a des gens qui sont passifs, qui sont dans un état de réceptivité. Alors, comme il le dit, ça n'existe pas, cette réceptivité. Les gens sont souscrits dans un état de vie. On ne peut pas avoir un public idéal comme ça. Et c'est comme le lecteur, il n'existe pas non plus, le lecteur idéal. Pourtant, on y pense quand on écrit. Et vous y pensez au spectateur idéal quand on fait une œuvre plastique ou quand on monte un projet culturel. Et finalement, donc je voulais parler aussi du fait que le spectateur aujourd'hui en art contemporain, par exemple, la notion de spectateur est fortement remise en question aussi. Ça, en fait, Christian Ruby en parlera mieux que moi, avec un spectateur qui est vraiment acteur aussi aujourd'hui de son sujet, de son état de regardant d'œuvre d'art. Donc il y a vraiment toute une réflexion depuis 20 ans sur la condition du spectateur. Et je pense que du coup, les ateliers, tels que moi je les pratique et tels qu'on les pratique, les ateliers artistiques en milieu hospitalier, en milieu musée, en médiathèque, etc., mettent aussi en question ce rapport à la personne à laquelle on s'adresse. J'essaie d'éviter le mot public. Est-ce que c'est quelqu'un à qui on va simplement...
à proposer un savoir-faire, je vais te faire écrire sur telle ou telle thématique parce que tu as vécu quelque chose de difficile, donc on va écrire là-dessus. Ou est-ce que je vais proposer aussi du coup des moments de confrontation à une œuvre d'art, des lectures, des moments, des interventions de poètes, de comment on fait aux hospices civils, des interventions d'auteurs qui vont venir nourrir le travail d'écriture. Et tout ça, c'est assez délicat où se trouve la place du spectateur et la place de l'acteur dans le service hospitalier, par exemple. On va s'adresser au patient comme un auteur, comme un écrivain, comme un acteur de sa propre... de son propre soin, enfin voilà. Et du coup, on s'adresse à des gens dont on va leur proposer de devenir pas artistes, mais auteurs. Donc là, ils ne sont plus du tout spectateurs. Donc tout ça, c'est à redéfinir selon l'état des... Évidemment, quand on va faire de la musique contemporaine dans un hôpital, on n'est pas dans la même posture que celui qui va faire écrire. Alors, je ne sais pas comment... après, à quel moment on s'adresse aux gens, est-ce qu'on... Voilà. En tout cas, notre rôle, c'est... Moi, je sais que l'écriture, par exemple, m'a apporté énormément, et que je serais sans doute pas là pour vous parler si je n'avais pas écrit des premiers romans il y a 15 ans, et tenu un journal toute ma vie. Et, voilà. Et aussi, si je n'avais pas écrit, mais surtout si je n'avais pas lu aussi toute une œuvre, si je n'avais pas été confrontée à tous ces auteurs qui m'ont sauvé la vie, qui m'ont aidé, etc. Donc, ce qu'on veut faire, nous, devant les publics, je ne sais plus quoi, on se comprend maintenant, et c'est vraiment permettre à ces personnes de s'approprier ces outils et cette culture, et voilà, qui j'ai fait aussi les Beaux-Arts, donc on mêle aussi des moments de dessin quand c'est nécessaire, d'ailleurs c'est dans le projet aussi aux hospices civils de les faire dessiner, donc c'est aussi apporter, voilà, donc la notion de spectateur, mais aussi d'auteur. À quel moment on bascule du spectateur à l'auteur, et à quel moment, effectivement, on ne va pas créer du jour au lendemain une œuvre d'art, mais à quel moment on peut donner les conditions idéales à des gens pour se ressaisir d'un moment où ils sont, donc, du coup, des publics empêchés, qu'ils soient en prison, qu'ils soient au collège, qu'ils soient en hôpital psychiatrique ou en hôpital gériatrique, ou tout simplement parce qu'il vient d'avoir un accident, comment on peut leur redonner des outils pour passer. Parce que l'art naît aussi à des moments, je pense à Proust, mais il y en a tellement. L'art naît aussi dans des moments de maladie, dans des moments de souffrance, dans des moments où on se sent exclu, ou dans des moments. Voilà. Donc comment on peut donner à ces gens-là des outils qui sont ceux qui ont été les nôtres et qui nous ont aidés à nous en sortir. Donc voilà, comment on peut devenir non plus spectateur de sa propre vie, mais acteur. Donc, je pense que la notion de public, là, elle est. Plutôt à travailler avec, voilà. Et voilà, et pour dire que on parlera peut-être, je sais pas si on aura le temps de parler de la façon dont ça peut nous aider nous aussi en tant qu'artiste, on en parlera après, je pense c'était dont ça peut nous aider nous aussi en tant qu'artiste à avancer, voilà. Voilà, on en parlera peut-être un petit peu après.
Du coup, est-ce qu'il n'y a pas parce qu'on voit bien que ce public, nouveau public, il y a quand même la notion d'acteur, enfin de traverser comme ça une espèce de frontière pour non plus être chosifié, être chosifié en tant que public, mais du coup changer de statut. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe, c'est-à-dire une tension aussi, et je l'ai remarqué dans ce que vous disiez sur Gadal, entre l'idée du lieu, c'est-à-dire que le lieu où on essaye de faire venir des gens, hein, avec des contraintes économiques, des contraintes de communication, marketing très fortes. Et puis, du coup, cette question-là des personnes, de cette approche-là. Je ne sais pas qui...
Moi, je vais peut-être juste répondre.
Il y a deux tensions. Il y a effectivement la tension de faire venir les gens, on est aussi là pour ça, et je pense que la communication, c'est comme l'action culturelle, on a des techniques, voilà. Après, c'est ce que j'essayais d'expliquer, ce qui est important, c'est le projet, en fait, c'est comment on met les gens au cœur du projet, quelle place on leur donne. Il y a une autre tension, qui est une tension que je trouve assez frappante dans la médiation culturelle. On peut l'entendre de plusieurs manières. Il y a des médiateurs culturels qui vont être des ayatollahs de la médiation culturelle, et donc qui seront à la fois sur une forme de corporatisme, il n'y a que les médiateurs culturels contre les conservateurs, contre les gens de la com. C'est des choses très violentes, hein, qui traversent nos institutions. Hein. C'est très, très vieux. Parfois, c'est très violent. Voilà. Et donc, il y a cette tension, on va dire, corporatiste, c'est-à-dire que... Alors, qui a l'effet pervers de faire que, ben, en tant que médiateur culturel, on s'enferme dans notre technicité et dans notre légitimité, et que les autres, du coup, se dédouanent de s'occuper des publics. Oh ben, c'est le service de Pirate qui s'en occupe. Hop, les collections, tout le monde hop, se retire, sauf la com qui essaye d'être au milieu et qui s'en prend partout, qui se fait assassiner à toutes les réunions. Donc ça, c'est la première tension. Et la deuxième tension, c'est à l'intérieur même de la médiation culturelle, c'est ce truc de dire aussi, ben, il n'y a pas de public, il n'y a que des gens, il n'y a que des acteurs, il faut les rendre acteurs du machin, il ne faut surtout pas qu'ils soient consommateurs, il ne faut surtout pas qu'ils soient passifs et tout. Oui, sauf que nous, il y a quand même des gens qui viennent au musée pour qu'on leur raconte Lyon au Moyen-Âge. Voilà. Et ils n'ont pas forcément envie d'être sous les spotlights et d'avoir à bosser. Ils ont envie que nous, on bosse. Et qu'eux, ils soient là et ils consomment. Enfin, j'utilise ce terme à dessein. Et pourquoi pas après tout. Et c'est vrai que parfois, dans la médiation culturelle, alors j'élargis à l'expographie, il y a quand même des expositions où, si on n'est pas sociologue, qu'on n'a pas bien compris où ça commence, où ça finit, qu'est-ce qu'on a voulu dire. Et donc, on n'a rien compris. Et donc, en faisant trop, c'est-à-dire en disant on ne va pas être ah là là, dans un truc descendant, on ne va pas être dans du cours magistral, parce que les gens, non, il ne faut pas. Bon, en fait, les gens, ils ne comprennent rien. Donc, soit ils sont un peu sur leurs appuis culturellement et ils disent c'est raté. Soit ils sont pas sur leurs appuis culturels et ils ont bien intégré qu'il y a ceux qui savent et il y a ceux qui sont du musée, puis il y a les autres, la plèbe, et ils repartent. En fait, il y a eu une violence symbolique. Et donc cette tension-là, moi, c'est une tension aussi, et vraiment qui est très violente. Hein. On peut s'écharper à l'intérieur. Vous avez l'impression que Gadane, c'est le foin d'empoigne, mais ça peut... voilà, il y a aussi ça, je veux dire, après tout, si les gens ils ont envie de venir consommer, qu'on leur raconte le truc et qu'on leur dise qu'en 1515 c'était Marignan, bon après il y a des manières de le faire, mais voilà, il y a aussi cette tension-là.
Christian, oui. Je ne sais pas si votre poste est vacant, Pierre, vous ne verrez pas.
Non, c'est fini là, c'est okay. Compliqué, désolé.
Christian.
Oui, je voulais quand même rajouter quelque chose. Peut-être pour élargir la question, parce que maintenant qu'on a bien massacré la notion de public, le risque c'est d'en tirer la conclusion qu'il faut s'agiter partout, etc. Et que voilà. Et moi j'ai très très peur de ce genre de choses et je voudrais surtout pas rentrer dans ce genre de jeu. Alors je vais faire un tout petit excursus. Vous m'excuserez, je vais vous supporter les 2-3 minutes de quelques références historiques. Je vais pas remonter à Marignan, mais c'est pas loin. J'ai quand même
2 minutes parce qu'on laisse la place.
Oui. Non, mais c'est juste pour raccourcir. Et ça ne vise pas à sauver la notion de public, mais ça vise quand même à lui redonner un contenu pour savoir de quoi on se démarque, si jamais on veut se démarquer. Parce que là, pour l'instant, on a beaucoup démoli, mais on sait finalement, est-ce qu'on sait exactement ce qu'on a démoli? Ça, je ne sais pas. Et je voudrais rappeler que, d'abord, la notion de public, elle est strictement moderne. C'est pas la peine d'aller la chercher chez Platon, chez les médiévaux, Dieu sait quoi. Son existence est strictement bornée à la question moderne. Et non seulement elle s'invente moderne, mais elle s'invente d'abord dans la politique. Bon, et voilà, alors on a tout ce contexte-là derrière qu'on est en train de massacrer, mais il faut savoir ce qu'on massacre, et j'ai rien contre, mais je voudrais juste le recadrer pour le préciser. Et quand elle est utilisée politiquement, en l'occurrence, cela signifie au service de tous. Et c'est en cela que c'est moderne, tous, parce que ça ne veut pas dire version grecque, seulement les grecs, ça ne veut pas dire version médiévale, seulement les croyants, etc., etc., tous. Tous, on est dans le problème de l'universel tel qu'il est posé dans l'ère moderne, mais on est bien là-dedans. Et ce n'est que secondement, et en l'occurrence pour prendre des dates en 1629 et en 1636, que la notion de public politique a été restreinte et appliquée au seul champ culturel. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi le temps que le champ culturel se construise. En l'occurrence, si vous voulez un repère, mais j'élude, c'est très exactement la querelle du Cid qui est la marque même de l'émergence de la notion de public dans le champ culturel, liée cette fois à cette notion d'adresse indéterminée à tous qui est devenue l'œuvre d'art au sens moderne, c'est-à-dire liée à l'art d'exposition dans sa rupture avec l'art de culte, et qu'à partir de ce moment-là, effectivement, le premier roi qui prononce la notion de public en ce sens-là, culturellement parlant, c'est un peu plus loin François Ier, je vais laisser tomber les règles, c'est l'idée suivante, ah ben, il y a un certain nombre de gens qui ont envie de discuter, ils nous emmerdent, mais qu'ils aillent discuter dans les salons, c'est très bien, on va appeler ça public culturel, mais qu'ils ne viennent pas s'occuper des affaires du pouvoir. C'est compliqué. Le rapport de la culture et de la politique, c'est extrêmement compliqué, car la culture va se construire du côté de la monarchie sous la forme du mépris, alors que, d'un autre côté, les sphères culturelles vont se construire justement contre la royauté, contre les églises, sur une théorie du jugement, en fonction de laquelle, effectivement, si quelque chose peut se composer comme un public, c'est parce qu'il est autonome par rapport à la monarchie et autonome par rapport aux églises. C'est-à-dire que c'est un champ laïque dans lequel seules les personnes entrées dans le champ ont le droit de dire quelque chose sur les œuvres qui sont produites à l'intérieur du champ, etc. etc. Je ne développe pas, mais c'est passionnant, voilà, et ça donne quand même un contenu à cette idée qu'on est en train de massacrer. Bon. À quoi s'ajoute, et je termine parce que je ne vais pas faire de chronologie, ça n'a aucun intérêt, mais derrière cette idée de public, il y a l'idée de construire un sens commun. Construire un sens commun, c'est-à-dire une unité qui, par la culture, pourrait avoir une incidence sur le politique. Alors que ça ne concerne que des élites, j'entends bien, que l'histoire des élites jusqu'à un certain temps, etc., aboutit à la décrédibilisation de cette idée du sens commun aujourd'hui. Alors vous avez qu'à écouter la campagne électorale, enfin, je veux dire, on est au fond de tout fond possible, enfin je ne sais pas si, bon, est-ce qu'on va tomber plus bas, c'est six mois comme ça. Bref, elle est décrédibilisée, je veux bien. Le résultat sur la notion de public et de public culturel, c'est la technologisation de la notion de public. Donc, son renvoi du côté de la communication et du côté du calcul, et d'une certaine façon, voilà, c'est aussi ce qui était sous-entendu, on ne peut rien avoir contre l'idée publique lorsque on a, par exemple, des problèmes comptables. Mais ça, j'entends très très bien qu'un directeur de salle a un problème avec la... Enfin, s'occupe de la question du public, parce qu'il y a un problème de jauge, de machin, etc. Puis il y a des subventions derrière, puis il y a des... Bon, voilà, c'est des métiers que je ne connais pas, mais vous imaginez. Bon. Donc, on peut l'utiliser cette fois, mais c'est comme ça aujourd'hui qu'elle fonctionne. Du point de vue de l'intervention publique, du point de vue d'une perspective globale, du point de vue d'une logique d'explication, ça c'est les sociologues, avec leur côté causaliste assez curieux et perturbant, hein, philosophiquement parlant, j'entends, mais c'est pas très grave. Avec l'idée que le public doit être pris en bloc, et finalement, c'est un terme à péjorer. Bon, alors le résultat, c'est qu'effectivement, voilà, on renoue avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais il faut quand même savoir que quand on s'y attaque, on s'attaque à l'idée d'unité, au rapport politique, à la question du sens commun, à la question de ce que nous voulons faire ensemble, et à une question non moins fondamentale qui est ce que je disais tout à l'heure à propos de ce qui est public dans l'art. Dans quelle mesure telle œuvre d'art me fait spectateur, je reprends le terme générique. S'il n'y a plus de spectateur, ce n'est pas un problème, ça. Bon, il me faut un mot. Dans quelle mesure telle œuvre me fait spectateur et quel spectateur elle me fait être. Voilà. Et là, on touche centralement à la question de l'œuvre d'art et par conséquent, ensuite, eh ben, l'hôpital, pourquoi pas la prison, etc. Après, c'est à mon avis tout à fait contingent.
Alors juste, je vais laisser la parole au public, mais juste avant, m'en excuser, mais pour finir de la destruction massive là, de cette première table ronde, je vais quand même demander à Carole, est-ce que finalement, et moi en tant que directeur de l'Agence Pronale pour le Livre, on est aux côtés des auteurs, hein, on défend aussi des créateurs de littérature, notamment dans le contexte de la médiation, hein, c'est-à-dire qu'on travaille... Avec la DRAC et la région, pour essayer de faire en sorte que les auteurs, dans les classes, dans les établissements où ils sont reçus, ils soient reçus en tant que créateurs et non pas en tant qu'animateurs culturels ou médiateurs. Et donc finalement, est-ce que, Carole, juste pour finir, est-ce que bon, le créateur, l'artiste, au final, il ne doit pas absolument se désintéresser de cette question des publics, poser son œuvre, creuser son sillon, sans aucun souci de la médiation, sans aucun souci du public, des publics, des spectateurs, des lecteurs, peu importe.
Oui, bah, il y a vraiment deux postures de l'artiste. C'est-à-dire, enfin, le moment où j'écris et le moment où je vais intervenir. Donc, ce n'est pas exactement la même posture. Et en même temps, c'est vrai que quand on écrit, on ne pense pas non plus au lecteur. On pense à un lecteur idéal, mais on ne pense pas au récepteur du texte. En fonction de son âge, on serait vraiment dans la communication. Quoi. Si on commence à se dire, je vais écrire pour les 8-12 ans un texte sur machin, on est dans la commande. Et de la même, ben, effectivement, quand on intervient, on est quand même plus dans. On va pas intervenir de la même façon si on est en musée ou si. Enfin, on va quand même. Mais ce qui fait sens pour. Ce qui lie pour moi les deux aspects du métier, parce que là, si je donne des ateliers d'écriture, c'est parce que ça me fait plus sens pour moi. J'étais prof d'art plastique avant et ça fait plus sens pour moi d'être à cette position-là pour le moment. Ça ne veut pas dire que je vais faire ça toute ma vie, mais voilà, c'est un. Et on le fait aussi, bien sûr. Alors, les différentes raisons, c'est parce que c'est des raisons financières. Les droits d'auteur, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne permet pas forcément à quelqu'un de rattraper un salaire normal, qui permet de vivre à Lyon. Et ensuite, il y a aussi la question de sortir de sa tour d'ivoire. Il y a beaucoup d'auteurs, enfin, tous les auteurs, la plupart ont un autre métier à côté. Et moi, je préfère avoir un métier qui soit en lien avec l'écriture. Et effectivement, et ce que ça apporte, ben ça apporte comme toute forme, enfin l'artiste qui a un côté vampire qui va se nourrir de tout ce qui. Donc les moments que je passe en atelier d'écriture, c'est le moment où je rencontre des gens, où je suis vraiment en connexion très forte avec des gens qui vont me parler de leur expérience très intime, parce que je vais les faire écrire. Voilà, il y a eu des fois où ça m'a juste traversé. Après, pendant des mois, je me suis dit, j'ai porté des vécus de gens avec qui j'avais travaillé qui sont décédés, etc. Il y a aussi des fois où ça a donné effectivement pour moi de l'écriture, notamment là je pense, parce que j'ai beaucoup travaillé en collège, en lycée, vu que j'étais prof pendant pas mal d'années, et un recueil de nouvelles qui était publié chez Thierry Magnier qui s'appelle Honte de tout, qui est sur. J'avais travaillé simplement sur la. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire la honte, en cinquième, avec des gens qui étaient en cinquième, en quatrième, sur la thématique de la honte, et c'est devenu un livre où j'ai écrit à partir des différentes hontes des personnes. Qui était dans cet atelier pendant plusieurs mois. Donc ça peut donner aussi effectivement des travaux qui vont être publiés. Ça va nourrir aussi une œuvre, et, parce que finalement c'est des gens qu'on rencontre et c'est des rencontres. C'est bien, donc ça va dans les deux sens en fait. Voilà.
Merci. Alors on vous laisse la parole avec un petit peu de retard.
Alors, cher Jean Grombal, comme ça, y a-t-il parmi vous une personne qui veut quitter la condition de spectateur pour prendre dans son identité mouvante la position d'acteur? C'est ça? Non, c'est pas ça.
Qui veut poser une question?
Pour faire des observations, remarques. Merci de dire votre nom et, le cas échéant, l'organisme que vous représentez.
Devant.
Un micro à une.
Deux micros.
Ah, ça c'est la bagarre. Alors,
oui, Marie Rosson, je suis plasticienne et j'ai une fonction d'art thérapeute. Dans l'idée de la rencontre, parce que vous parlez du public. Il me semble que quand on est à la position de parole ou quand on est à la position de qui que ce soit, en tout cas, quand on vient, quand on intervient dans une institution, on a, il me semble, un rôle de passeur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous viennent, qui viennent de la personne qui est en face. On sert de catalyseur pour permettre à la personne qui est en face d'exprimer son talent. Le talent, malheureusement, on n'en parle jamais, et c'est ce qui nous fait vivre, et c'est ce qui nous permet de vivre jusqu'au bout de notre vie. Et je pense que ça me paraît important de ne pas oublier que le public, il a le talent de recevoir ce qui est proposé ou il l'a pas. Mais il me semble qu'en tant qu'artiste, on a à essayer de permettre à l'autre, quand on a développé suffisamment des choses en soi et qu'on est sorti de quelque chose ou qu'on continue quelque chose qui nous intéresse, on a aussi le rôle de permettre à l'autre de sortir ce qu'il a envie, puisque tout le monde a quelque chose du talent.
Merci. On va peut-être prendre plusieurs questions et puis laisser répondre aux observations et laisser répondre ensuite nos intervenants s'ils le souhaitent.
Voilà. Moi, je vais parler en tant que comédien et également en tant que anime. Comment ?
Votre nom, s'il vous plaît.
Ah, pardon. Étienne Trébu. Et en tant que... Pourquoi ça fait ce son trop près ? Là, c'est bien. Non, c'est pas bien. Ah, c'est l'autre ?
Ok.
Ok. Et en tant qu'animateur aussi d'atelier...
Mais il est
éteint. Ok.
Courage.
Et également en tant qu'animateur d'atelier avec des personnes en situation de handicap et aussi des enfants lambda. Alors au niveau du théâtre, on considère qu'on a.
Ah, c'est génial parce que là il y avait un vrai corps groupal. Tous là.
Et donc au niveau du théâtre, on considère qu'il y a trois partenaires. Et donc.
Est-ce que on m'entend comme ça ou pas?
Oui.
Du coup en fait on considère on a trois partenaires. Notre réplique, notre texte et le public. Mais qui ne devient pas public, qui devient partenaire parce qu'il a. Réellement, il y a une interaction, c'est-à-dire qu'il va, il a une énergie, il va influencer finalement sur nous, sur notre jeu. On ne va pas jouer de la même manière si on a deux personnes que si on en a 300. Après, il faut différencier ça de ce côté, de le considérer comme un partenaire, et pas d'aller non plus
sur du cabotinage qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se faire bouffer par ce partenaire. Et au niveau de mes ateliers, c'est-à-dire que moi j'arrive avec des compétences, avec ce que je suis, mais je ne vais pas être là en demi-dieu à apporter mes connaissances, mon savoir, tout ça, mais je vais plus interagir avec eux, c'est-à-dire que je vais faire tous les exercices avec eux. Je vais faire les improvisations avec eux. Et finalement, ça devient de vrais partenaires, parce que moi, je vais travailler avec eux. Voilà. C'était un peu tout ce que je voulais dire sur cette notion de public.
Merci. Pardon, c'est problème de micro. Une autre observation là-haut, voilà.
Ah oui, si, pardon. Du coup, j'avais une question, parce qu'il y avait une question.
Ah.
Sur cette notion du coup, de public-partenaire, de savoir, parce que ça, c'est facile dans l'art vivant,
mais justement, dans les arts plastiques, comment est-ce que c'est possible de l'intégrer en tant que partenaire?
Suspense. Non, je regarde Géraldine qui interviendra cet après-midi.
Oui, alors, encore une question et puis on...
Anne Diplan, donc direction de la culture métropole de Lyon. Donc, en fait, ce que je constate à travers les échanges, les interventions, les intervenants présents, c'est qu'il y a deux questions qui se croisent et qui s'entrechevêtent durant cette table ronde. C'est à la fois la rencontre... Des personnes avec des œuvres, comment on va vers les personnes, elles viennent vers les œuvres, comment on se fait ce lien et ce temps pour la rencontre. Et par ailleurs, la question sous la forme de la participation des habitants. Et par rapport à cette question-là, c'est vrai qu'il y a une thématique qui peut éventuellement... faire le pas entre les deux équations, c'est celle qu'apporte la question des droits culturels qui considère la prise en compte du fait que chacun est aussi porteur d'une culture. C'est juste un complément éventuel.
Alors on va peut-être prendre Patrick Sapin, semble-t-il, une observation, puis après on va laisser la réponse à la table ronde.
Donc Patrick Sapin, je suis musicien et plasticien. Pour répondre à la question du jeune comédien, J'ai une formation de musicien, mais j'ai commencé tardivement à travailler sur les arts plastiques. Et ce qui m'a intéressé...
Moins fort, un tout petit peu moins fort. Non.
Ce qui m'a intéressé lorsque j'ai fait mes premières expositions, c'était aussi le retour du public. Mais pas dans le sens « oui, c'est bien, on n'aime pas du tout ». Mais Jacques Tati disait « le film commence lorsque le spectateur sort du cinéma ». Ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est ce que ça change dans la tête de la personne qui est venue voir des œuvres, voir l'exposition. Donc le lien avec le public, pour moi, il se fait vraiment là, et il est extrêmement important. C'est qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que la personne, après avoir vu une exposition, qu'est-ce qui a changé dans sa tête? Qu'est-ce que ça lui a... Voilà, quelle histoire il s'est racontée, qui n'est pas du tout l'histoire que moi je me suis racontée en faisant mon œuvre. Et j'espère que c'est pas du tout la même, d'ailleurs. Bon. Voilà, donc ce lien sur les arts plastiques avec le public, pour moi, il est extrêmement important à ce niveau-là.
Merci. Laurent, est-ce que quelqu'un à la table ronde peut répondre?
Christian.
Je veux bien juste embrayer sur votre dernière intervention, parce qu'elle me paraît effectivement fondamentale. C'est-à-dire que s'il y a quelque part quelque chose qui se forge comme public, c'est peut-être justement ce moment du passage de celui qui est devenu spectateur au langage. Et au langage qui s'adresse aux autres et qui constitue des dialogues. On ne peut pas sortir du cinéma quand on est allé au cinéma avec quelqu'un sans à la sortie lui dire c'était bien, c'était pas bien, enfin bon, etc. Peu importe. Puis après, on va boire une petite bière au bistrot du coin. C'est là que ça se joue. C'est là, effectivement, que quelque chose se joue dans ce moment de l'émergence d'un dialogue, qui est l'émergence de soi-même à la parole, à un type de parole, l'obligation aussi de faire attention à ce qu'on dit. L'obligation aussi d'écouter l'autre, l'obligation en même temps de se dire « Ah bah tiens, j'avais pas vu ça, je prends le film ou l'art plastique, peu importe, tiens, j'avais pas vu ça dans cette œuvre, ah bah on va y retourner. » Voilà. Là, effectivement, quelque chose de fondamental se passe, donc je suis assez content que vous ayez envoyé là-dessus, mais je vais pas multiplier indéfiniment. Je voulais juste répondre aussi à la question des droits culturels. Alors moi, elle me paraît centrale, on est bien d'accord, mais alors là aussi, il faudrait prendre 5 minutes pour établir la question, parce que droit culturel, ça peut s'entendre en termes communautaristes, ou ça peut s'entendre dans une version droit de l'homme, et c'est pas du tout la même chose. Vous savez que les disques, alors, en Belgique, ils ont eu un mal de chien déjà à se mettre d'accord sur la manière, etc. Mais ils sont arrivés à un certain nombre de choses au travers de culture et démocratie et autres, donc c'est très bien. Au Canada, ils en discutent. En France, le problème, c'est qu'on n'en discute pas, ou peu, ou mal, ou etc. Et c'est dramatique. Mais il y a quelque chose qui se joue fondamentalement dans cette question-là. Voilà, je l'évoque. Et je voulais dire juste une troisième chose au fil des interventions concernant la notion de participation, etc. Alors aujourd'hui, c'est une espèce de lieu commun, donc tout le monde veut faire de la participation, puis les politiques en appellent, il faut que ça participe, parce que sinon on ne va pas être élu, etc. Puis alors, je ne reviens pas sur l'année. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faut se méfier de cette notion de participation, d'abord parce que la plupart des personnes qui en parlent croient qu'elle est neuve, ce qui est complètement faux, c'est totalement faux, ça participe de la constitution de la question de l'art moderne à partir du problème des avant-gardes, c'est-à-dire autour de Baudelaire et Mallarmé. Donc franchement, comme découverte, bon, d'accord. Non, mais c'est important parce que parfois, encore une fois, je rappelle ma formule de tout à l'heure, on a l'impression d'entendre telle ou telle personne que le monde naît avec elle. Et c'est très angoissant. C'est très, très angoissant. Maintenant, je ne suis pas historien pour autant, je ne suis pas passéiste non plus, je m'en fous complètement. Sauf que moi, j'aime bien la distance, la prise de distance et la conscience de la distance. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, participation n'est pas nouveau. Et moi, j'y vois un inconvénient, c'est que pour l'instant, n'y voyez pas une attaque pour un certain nombre d'œuvres, etc., mais il y a un problème, c'est que participation, c'est devenu vraiment le lieu commun de l'art aujourd'hui. Il faut que ça participe, machin, etc. Et merde, et si moi, j'ai pas envie?
C'est ça. Ça y est, il fait le récalcitrant.
C'est incroyable, on lui proposait de participer à Christian. On lui donnait une place dans la société, une petite place à Christian. Puis voilà, bah non, il ne veut pas participer. Ouais, alors moi je me suis posé effectivement la même. Il y a beaucoup de questions depuis mon arrivée à l'hôpital. Parce que moi j'ai été une plasticienne qui faisait participer les gens.
Sans blague.
Et donc, et puis en fait, bah, c'est vrai que je suis complètement revenue beaucoup en arrière. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, effectivement, alors surtout avec des gens qui ont des difficultés particulières, cette espèce de, d'injonction permanente à leur demander à participer. Il faut bosser. Il faut bosser, mais c'est surtout qu'il y a aussi un vrai. Alors là, ça, c'est mon côté catholique hein, qui va remonter à la surface. Oui, désolé, Pierre. C'est le côté. Alors, c'est comme chez les catholiques, là, le mystère du spectateur. Il faut un peu laisser sa part de mystère au spectateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, hier, j'ai voulu regarder un documentaire sur internet, sur YouTube. Il y a des moments où je sais pas, je dois vouloir me faire mal ou souffrir. J'ai regardé les commentaires en dessous, là, vous savez, cette espèce de liste de choses où les gens sont d'une violence, d'une agressivité, ils sont insultants, ils pissent sur ce qu'ils viennent de voir, ils font éclabousser tout. C'est-à-dire que la question aussi cette sortie d'exposition ou de salle de cinéma, là, maintenant, avec internet, c'est vraiment devenu un truc atroce, quoi. Et du coup, voilà, bon, je préfère quelquefois, en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop ce qui se vit, on ne sait pas trop ce qui bouge dans l'autre. Quelquefois, on a très envie de savoir, quelquefois, on en a des bribes, mais trop, non.
C'est pour ça que j'ai parlé de dialogue et pas de communication.
Ouais. Alors, moi, je voulais dialoguer avec ma collègue de la métropole, en fait, mais je vais peut-être commencer par la fin de son intervention là, sur la question des habitants. Que ça va un peu dans le même sens. Je pense que là, on se pose la question des publics et on est en train de déconstruire et on dit la question des habitants, c'est pareil. Hein. Enfin, surtout pour tout ce qui est urbanisme et musée d'histoire et tout ce qui peut se faire en politique de la ville, etc. On pourrait vraiment interroger cette notion, celle des habitants, c'est moi, de mon point de vue, on essaie de travailler avec les habitants et tout ça, mais c'est un peu comme. Ça devient un peu un mot comme public, ça peut devenir insupportable. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire habitant ? Ça fait un peu safari, quoi. C'est les gens qui sont là, qu'est-ce qu'ils font ? Puis ils habitent, hein. Donc en fait, ils sont pas très actifs, hein, à part qu'ils mangent, ils dorment, voilà. Quand même, je trouve que sur un territoire, il faut vraiment qu'on arrive à décaler le regard et se dire. Il n'y a pas que les habitants, et puis les habitants, ça ne veut rien dire. On peut être habitant et en fait jamais être là, parce qu'en fait on travaille ailleurs. On peut être habitant hyper actif, parce qu'on est dans le conseil de quartier, machin. On peut être un habitant qui fait que râler. On peut être habitant commerçant. On peut être, je trouve que. Et ça me fait dire que par rapport à la participation, on est beaucoup sur la participation des habitants, en tout cas en démocratie participative. Et finalement, participer, ben, est-ce que c'est pas aussi, je sais pas moi, être le médecin généraliste du coin ? Est-ce que c'est pas être l'épicier, la caissière, du supermarché du coin ? Ou même être urbaniste voilà, je trouve qu'il faut vraiment réfléchir aux actions des gens plutôt qu'à je sais pas, au fait, ils habitent ou ils habitent pas. Je trouve que ça commence à devenir gênant, cette notion d'habitant dans la participation. Et alors, pour être à rebours avec la remarque de la collègue de la métropole sur le rapport avec l'œuvre. Alors, la culture, en fait, c'est pas que des musées des beaux-arts. En tout cas, en musée, on en souffre beaucoup de ça, mais la culture, c'est pas non plus le spectacle vivant. Et nous, par exemple, on est toujours. Ça s'est un peu amélioré, mais on est toujours gênés à Gadagne et puis dans d'autres types de musées. Quand on recevait les enquêtes, enquêtes de public, enquêtes, enfin, bref, en fait, on rentrait dans aucune case. Parce que les musées, c'est une œuvre et des publics. Et en fait, à Gadagne, pour ceux qui m'ont déjà entendu dire ça, fermez les oreilles, parce que ça fait, je pense, 13 ans que je le répète. Nous, par exemple, on a un objet majeur à Gadagne qui est une louche en fer blanc. Voilà. Bon, et ben, la louche en fer blanc, sauf si vous êtes hyper preneur des instruments de cuisine, des ustensiles de cuisine des années 10 à Lyon, il n'y a pas tellement d'émotion quoi, face à cette louche. Il se trouve que c'est la louche de Clotilde Bisolon, qui était la maman du poilu. Et il y a tout un discours autour. Alors, on a la photo de Clotilde, etc. etc. Et en fait, nous, ce qu'on présente, oui, on présente des objets, parce que c'est les reliques, etc. Mais surtout, on présente des objets dans un discours dans un discours. Et du coup, on rentre pas, nous, dans le truc de la rencontre entre les gens et l'objet, ou les gens et la création, enfin, à moins de, encore d'être admiratif des gens qui fabriquent les louches, mais ce qui n'est pas un souci. Hein, mais, enfin, voilà. Et je pense qu'il faut... on essaie toujours de décaler ce regard. Il faut pas l'oublier. Enfin, je trouve qu'il faut pas l'oublier parce que on voit bien ce que ça donne à Branly quand du quai Branly, quand on vous présente un machin qui vient de l'autre bout de la terre et qu'on vous explique que c'est une œuvre d'art, ce qui n'a aucun sens. Hein, je veux dire, et ce qui ne veut pas dire que c'est pas de l'art. Pourquoi pas? Mais voilà, faut quand même faire attention à la surface de la culture, parce que très vite, en fait, on revient sur la culture avec un grand C, et pas du tout sur l'échange. Et l'échange à Gadagne, enfin, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment le discours autour. Et le discours, on peut l'imposer, on peut décider que voilà ce qu'on a à dire sur la louche de Clotilde Bisolon, c'est la charité laïque républicaine mise en place par Herriot pour aller contre la charité catholique, etc. Donc on peut raconter tout ça. C'est là aussi où je pense que le partage et la rencontre peut se faire. Donc faut aussi arrêter avec ce grand truc là, les artistes.
Là. Je peux juste rajouter une chose sur ce que tu viens de dire. Bon, je passe sur l'application de la catégorie d'art à toute une histoire qui n'a aucun rapport avec ces... Moi, j'ai même entendu, alors c'est en fait que ça m'a figuré, mais j'ai hurlé sur place. On avait l'impression qu'il parlait de l'art pariétal sur le mode de on entre dans la caverne, on allume l'électricité et puis on voit l'artiste peindre au fond. J'ai dit, c'est complètement givré. Bon. C'est pas très grave, mais sauf que c'est un problème d'impérialisme culturel. Ouais. Et ça, c'est très grave. C'est très, très grave. Bon, enfin, je passe là-dessus. Mais pour, puisque la question de la culture revient globalement sur le tapis, moi, je voulais juste dire, voilà, ce sera un peu ma conclusion de tout ça, c'est que tant qu'on réfléchit la culture en termes d'objets, tant qu'on réfléchit la culture en termes d'institutions culturelles, tant qu'on réfléchit la culture dans ces termes-là, tout est perdu. Une culture, si on veut s'y référer, ça ne peut pas être autre chose que l'ensemble des exercices par lesquels les femmes, les hommes, de toutes conditions, justement, s'exercent à se défaire de toutes les assignations auxquelles ils sont soumis. Voilà, c'est ça la culture. Il n'y a absolument rien d'autre. Tout le reste, c'est une façon, encore une fois, de coloniser, d'enfermer, de bloquer, d'interdire, etc.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques?
François.
Là, ici. Merci. Donc François Vérune, chorégraphe. Est-ce que on pourrait envisager les choses de la façon suivante par rapport à cette dialectique, ou en tout cas ce rapport entre les artistes et le public, j'utilise aussi des mots valises là, en envisageant peut-être la question, il y a des êtres sujets en fait, il y a éventuellement des artistes qui proposent, ils font des choix, ils assument, et c'est super pas grave, en fait ils font ce qu'ils ont à faire, et après à partir de là, dans le cadre de la rencontre, les gens disposent, et c'est galette, c'est extrêmement simple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas s'excuser de faire de la danse des arts plastiques. Et c'est juste une proposition politique sensible qui est proposée. Et qu'à partir de là, ça peut ouvrir un espace d'imaginaire. Et moi, l'histoire de la louche, je trouve ça génial. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui vont me faire rêver sur la louche et faire un pas de côté et jouer ou danser avec la louche, c'est juste génial. Et en même temps, si je n'ai pas envie d'avoir la description historique de l'affaire, c'est OK. Donc en fait, je crois que c'est ce qui a été posé tout à l'heure, ou ce que j'ai entendu, c'est la question de l'humilité, en fait. Voilà, on est un certain nombre de protagonistes qui essayons de finalement de vivre ensemble à partir de là où on est. Voilà.
Merci. Il y avait une demande ici, je crois, et puis Christine de l'Obélie.
Bonjour, Liliane Silva, donc je suis artiste et en formation d'art-thérapie.
C'était simplement une remarque pour dire que j'admire que vous fassiez ce travail de faire le pont entre le, ce que j'appellerais moi le regard de l'administration, de nommer les choses, et le regard de la création. C'est-à-dire, la création, c'est ce qui se passe dans le moment, c'est quelque chose dans le temps et dans l'espace. Et à côté de ça, manipuler des noms qui sont en dehors du temps et faire en sorte qu'ils n'enferment pas tout. Et trouver le pont, ça me semble difficile. Donc, je voulais juste dire que j'aime bien.
Ah, c'est très gentil. Ça, alors ça, je suis très touchée. Parce que c'est vrai que c'est vraiment difficile à faire.
En même temps, ça donne la vie à votre métier sans ça.
Oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'on gagne sa vie.
Christine, ensuite.
D'accord, d'accord.
Et puis.
Ben, c'est dur.
Christine Delebel, je suis administratrice d'Interstice et je suis aussi administratrice de Culture pour tous. Certains connaissent cette association qui met en lien des structures culturelles et des établissements sociaux et médico-sociaux pour offrir des places de spectacles ou d'événements à des personnes qui, à un moment donné, sont en difficulté et sont donc suivies par des structures sociales ou médico-sociales. C'est pour rejoindre ce que vous disiez, parce que ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les discussions qu'on peut avoir avec ces personnes. D'abord, ils se sont appelés, il y a eu tout un travail sur comment on va les appeler, ils s'appellent les actionneurs, parce qu'ils actionnent leur vie culturelle, c'est-à-dire le moment où ils ont envie et de voir quelque chose, de participer ou d'actionner quelque chose pour eux, de partager en tout cas. Et ce que j'entends aussi dans les échanges qu'on peut avoir ensemble, c'est qu'ils veulent avoir le droit de n'être dans aucune catégorie, c'est-à-dire voilà, de participer à la vie sociale et à la vie culturelle, en ayant quand même le soin de rendre accessible et d'avoir le droit de ne pas tout analyser. On est beaucoup, notamment avec l'art contemporain, on peut être horrifié parce que on n'a pas pu expliquer une œuvre ou... Ils veulent avoir le droit aussi de s'émouvoir, c'est tout. Et s'ils n'ont pas compris, c'est pas un problème, en fait. C'est dans le partage. Voilà, si c'est quelque chose qui leur convient, c'est... ils viennent pas de rien. Enfin, tout le monde a une culture, tout le monde a une famille, une histoire culinaire, de partage, de... Voilà. Voilà, c'est
merci.
Ce que je voulais partager.
Merci Christine. Alors, il y avait encore peut-être entre le fait que je suis idiote et le fait qu'il y a des projecteurs, c'est compliqué.
Oui, bonjour. André Fertier, président de Sémaphore, Centre national de ressources pour l'activité culturelle. Concernant les droits culturels, je voulais donner déjà une information, puisque nous organisons avec le Sénat et au Sénat, donc en collaboration très étroite avec la Commission culture du Sénat, des assises nationales, droit culturel et politique publique, qui se tiendront donc le 24 février prochain au Sénat à Paris. Et alors, je m'excuse, je n'ai pas assisté à toute la première partie des échanges, donc je vais peut-être poser une ou deux questions qui ont déjà été abordées, enfin, au cas où ça n'ait pas été abordé. Donc, deux questions. Il y a... Autour de ces sujets, moi j'entends aussi une autre expression que public dans la bouche de certains créateurs, c'est donc l'expression le matériau, c'est-à-dire que les malades à l'hôpital, les personnes âgées en tant que mises dans un service de gériatrie en maison de retraite, donc sont formulés comme étant le matériau pour leur création. Donc ça, c'est, je fais pas de commentaire, mais je dis que c'est aussi une expression qui est utilisée. Et puis, l'autre question, deuxième question, dernière question, le mot public, pour moi, renvoie à une question de fond qui sera d'ailleurs traitée aux Assises nationales sur les droits culturels, c'est la question de la garantie de continuité du service public de la culture. C'est-à-dire notamment pour des personnes qui, pour diverses raisons, soit parce qu'elles sont détenues, soit parce qu'elles sont en situation de handicap et qu'elles sont isolées dans leur lieu de vie, domicile privé et institution d'accueil, ne peuvent pas se rendre vers les lieux culturels. Et donc la question, ce qui est posé, c'est le principe constitutionnel, son application de garantie de continuité du service public de la culture et donc garantie aussi de son adaptabilité. Et par rapport à ça, ce que je voudrais dire, c'est que très souvent, quand il y a des colloques, des rencontres sur ces sujets, on entend beaucoup parler, comme si c'était le sujet dominant, les artistes intervenants, les artistes, les créateurs. Mais la question de fond, c'est quand même aussi les enseignants, les professeurs de musique, de danse, d'art dramatique, etc., d'art plastique, pour qu'en effet, moi demain, par exemple, si je suis en service de gériatrie, si j'ai envie d'avoir régulièrement un cours de musique, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas, je souhaite avoir un professeur de musique, je ne souhaite pas avoir un artiste intervenant, par exemple. Donc voilà, c'était deux, trois sujets que je voulais évoquer qui me semblent importants. Merci.
Merci. Je crois qu'on va bientôt clore. Hein, Laurent, je ne sais pas s'il y a un mot depuis la tribune. Si... Vous avez conclusion. Peut-être Christian.
Non, mais c'est juste pour repréciser encore. Si une notion comme public empêché est problématique, c'est qu'en général, tout le monde sous-entend que ce sont les personnes en question qui sont empêchées. Mais, excusez-moi, quand il s'agit des prisonniers, c'est nous qui les empêchons. Pas tout à fait pareil. C'est nous, comme citoyens et citoyennes, c'est-à-dire comme responsables de ce que nous fabriquons comme institution dans lesquelles nous les enfermons, qui fait qu'ils deviennent empêchés, peut-être. Mais ce n'est pas des publics empêchés, au sens où, d'une certaine façon, ontologiquement, ils seraient empêchés. Moi, toutes ces notions, ça me rend malade du point de vue citoyen ou citoyenne, en l'occurrence.